18h30 à Paris, c'est l'heure du débat avec Romain Ozoui.
Merci Véronique Rigolet. Ouais, c'est le grand jour aux États-Unis et on va, dans le débat du jour, continuer à parler de la présidentielle américaine.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et on va s'intéresser spécifiquement aux sondages. Il semble parfois ces sondages dicter la vie politique. Aux États-Unis, ils paraissent fluctuants. On va évoquer l'histoire qui a parfois montré des écarts importants entre le résultat présidentiel et ce que prédisaient les sondages. Notre question, peut-on se fier aux sondages? Comment sont-ils réalisés ces sondages aux États-Unis? Qu'est-ce qui a tendance à être sous-estimé? Qu'est-ce qui a tendance à être surestimé? Et puis comment ces sondages pourraient-ils gagner en efficacité à l'avenir avec notamment le développement de l'intelligence artificielle? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, mes deux invités à mes côtés en studio ce soir, Jérôme Vialago-Defroy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en civilisation américaine, spécialiste des présidents américains, auteur du livre « Les mots de Trump ». Face à vous, Ludivine Gilly, bonsoir.
Bonsoir.
Docteur en histoire et directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès, votre ouvrage « La révolution conservatrice aux États-Unis, de l'avortement au droit de vote, la démocratie ». Perverti. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour. Je sais que c'est le début d'un long marathon hein. Concernant évidemment ces élections américaines sur les différentes antennes pour vous, experts américains. Première question, Jérôme Vialago-Defroy, que disaient les derniers sondages de ce duel entre Kamala Harris et Donald Trump? Et puis comment est-ce qu'ils ont évolué au fil des mois de la campagne américaine, ces sondages?
Alors en fait, déjà, il faut savoir que les sondages sont tous restés toujours dans la marge d'erreur, hein, et même souvent à un point, un demi-point de marge, en tout cas de différence entre les deux candidats.
Donc, on peut rappeler ce que c'est la marge d'erreur.
Alors, la marge d'erreur, c'est cette marge, quand on a un échantillon, il y a toujours marqué 3 ou 4 points généralement de marge d'erreur. Ça veut dire que le candidat qui est par exemple à 51, s'il y a 3 points de marge dans la marge d'erreur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer au-delà de cette marge d'erreur, ça veut dire qu'il pourrait être à 3 points au-dessus ou 3 points en dessous par rapport au chiffre qui est donné.
C'est important.
Parce que c'est très important.
Quelqu'un qui est donné à 53%, on pense qu'il y a de la marge, ça peut vite tout s'inverser.
Exactement.
S'il y a 3 points de marge d'erreur.
Voilà. Donc ça veut dire que si vous êtes à 51, ça peut être, le résultat final pourrait être à 54. Ouais. Ou à 48, donc voilà, on peut pas, ça peut être une grande variabilité.
Ouais. Et comment on calcule cette marge d'erreur?
Alors cette marge d'erreur, elle est calculée par les différents instituts de sondage par rapport à l'échantillon qu'ils ont et par rapport à l'histoire qu'ils peuvent avoir d'erreurs possibles sur un échantillon donné. Et en fait, ce que vous avez en général, plus l'échantillon est large, plus vous avez de chances d'avoir un résultat proche, mais au-delà, disons qu'en dessous de 1000 personnes d'interrogées, ça ne compte absolument pas, déjà. Ah. Donc ça, on peut être sûr. Et puis, ce qu'on voit, effectivement, c'est que dans l'histoire récente, dans l'histoire des présidentielles américaines, les erreurs ont été quand même assez courantes, notamment en 2016 et 2020. Et en 2020, on était à des erreurs.
Donc, victoire en 2016 de Donald Trump.
Voilà.
2020, élection de Joe Biden.
Élection de Joe Biden. Mais dans les deux cas, c'était le vote Trump qui était sous-estimé.
Ouais.
Et donc, ça, c'était quand même important. Et notamment, en 2020, on a eu l'écart le plus important depuis... la dernière fois, c'était en 1980 qu'on avait autant d'écart entre le sondage et le résultat réel. C'était... Pour le coup, c'était les démocrates là, qui étaient sous-évalués en 1980.
Alors, ça soulève plein de points, ce que vous nous dites, mais je reviens sur ma première question. Le point sur les sondages entre Harris et Trump, qu'est-ce qu'ils ont donné ces derniers mois? Comment ils ont évolué? Elle s'est lancée dans la campagne tardivement, on sait, après la retraite de Joe Biden. Et on les annonce au coude à coude.
Oui, alors ils sont au coude à coude. On voit qu'il y a une légère avance. Mais encore une fois, quand je dis ça, je me contredis par rapport à ce que je viens de dire aussi. Hein, puisque ce qu'on voit, c'est qu'elle est légèrement à... même moins d'un point sur certains états du Midwest, c'est-à-dire le Michigan. Et alors le Michigan, en plus, c'est pas du tout sûr, mais on a sur la Pennsylvanie, qui est un état extrêmement important, puisqu'a priori, ça va être difficile de gagner l'élection sans la Pennsylvanie. Ouais. Et puis le Wisconsin, là, il y a une légère, mais encore une fois, qui a moins d'un point ou à peu près un point. Et pareil, pour ce qui est des états... disons, du sud et de l'ouest, donc la Géorgie, la Caroline du Nord et les deux États de l'ouest, le Nevada et l'Arizona, où là, on voit légèrement une petite montée de Donald Trump, mais ça varie d'un sondage à l'autre, ouais. en fait. Et c'est ça qui est un vrai problème, surtout quand vous êtes à, encore une fois, moins d'un point. Mais il faut surtout se souvenir que les résultats et les marges de victoire, cette fois-ci, sont très faibles. La marge de victoire en Géorgie, c'était les fameux 11 779 voix que cherchait Donald Trump. Donc, c'est très, très faible. On ne peut pas le mesurer par un sondage. Ouais. En Arizona, Joe Biden a gagné par 10 000 voix.
Ouais.
Donc, c'est vraiment peanuts, quoi.
Ouais.
On peut pas, aucun sondage ne peut mesurer ça.
Et tout se joue dans ces états pivots. On le sait, vous avez cité la Pennsylvanie, c'est le plus important des états pivots. Ludivine Gili, comment on peut expliquer qu'on ne puisse pas resserrer les sondages? Parce qu'effectivement, c'est intéressant, vous citiez 2016, l'élection de Donald Trump. Finalement, les sondages, évidemment, annonçaient la victoire d'Hillary Clinton. Mais finalement, en termes de nombre de voix, ils ne sont pas complètement trompés. C'était très proche, le résultat final. La différence s'est jouée dans les états pivots.
Exactement. On a plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'il faut bien différencier les sondages nationaux et les sondages dans les états. En 2016 et en 2020, par exemple, on parlait beaucoup des sondages nationaux dans lesquels Hillary Clinton et Joe Biden avaient beaucoup d'avance. In fine, Hillary Clinton a gagné avec 3 millions de voix d'avance, 2,9 millions, et Joe Biden avec 7 millions. Donc, ils avaient tous deux une bonne avance au niveau national. Mais l'élection se joue de manière indirecte avec les grands électeurs, elle se joue dans les états clés. Et c'est là qu'au niveau des sondages, ça devient plus compliqué. Jérôme parlait tout à l'heure des échantillons. Il est déjà très délicat de constituer des échantillons représentatifs, et ça c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout ailleurs, au niveau national, puisqu'on peut trouver des personnes qui répondent, qui vont correspondre à différentes qualités au sein de l'ensemble de la population des États-Unis. Quand on veut obtenir des sondages fiables au niveau d'un État clé, la base au sein de laquelle on va pouvoir puiser notre échantillon représentatif se réduit. En Pennsylvanie, par exemple, puisqu'on en parlait, on a un potentiel à peu près de 9 millions d'électeurs. Il y en a à peu près vraisemblablement 7 millions qui vont voter. On n'est plus à plus de 300 millions de personnes. Parmi cette population-là, les caractéristiques ne sont pas les mêmes qu'au niveau national. Et donc, lorsque un sondeur va constituer son échantillon, il doit trouver des populations représentatives. Mais représentatives de quoi ? C'était là le problème principal en 2016 et qui a continué à poser problème en 2020, c'est-à-dire que on mesurait la part, par exemple, d'hommes et de femmes, de jeunes, de vieux, d'urbains, de ruraux, au sein de l'échantillon qu'on utilisait pour voir ce que les gens pensaient. Mais les sondeurs n'avaient pas mesuré la part de personnes diplômées et la part de personnes moins diplômées.
Mais ça veut dire qu'il y a un manque de travail d'identification en amont de la part des sondeurs, d'identification de la population ?
C'est pas forcément un manque, c'est un point aveugle. Avant 2016, ça n'était pas un déterminant important du vote.
Pourquoi ?
C'est un point qui est apparu du fait de Donald Trump.
D'accord.
Donald Trump ne
plaît
pas du tout.
C'est le grand enseignement.
Exactement. Donald Trump ne plaît pas du tout aux personnes diplômées, y compris chez les Blancs, qui historiquement votent davantage républicains que les autres parties de la population. Les Blancs diplômés vont voter pour certains davantage pour Donald Trump, mais avec des marges moins importantes. Et donc, c'est le genre de choses que les modèles de sondage doivent prendre en compte.
Ouais.
Et quand on a des phénomènes comme ça qui émergent et qui font changer la manière de voter de certains segments de l'électorat, et qu'on ne les repère pas, on aboutit à des sondages qui sont erronés. Et ça amène des questions pour les sondages de cette année, parce que on a la question Donald Trump. Quand on fait des sondages, il y a un certain nombre de biais dont on sait qu'ils existent. Pour Donald Trump, par exemple, un des biais connus pour les années passées, c'est qu'il y avait une réticence de la part des personnes interrogées à admettre qu'elles allaient voter pour Donald Trump. Donc, le sondeur, le sachant, applique un coefficient et va multiplier le nombre de réponses disant « je vais voter pour Donald Trump ».
Mais c'est aléatoire.
C'est pas aléatoire, c'est informé par les sondages précédents, d'accord, par okay, des focus groups, etc.
Ça s'affine, on va dire, ça d'année en année.
Mais ça n'est pas une science ouais, exacte. Une des questions cette année, c'est dans la mesure où les sondages ont été remis en question pour 2016 et 2020, c'est a-t-on peut-être surcorrigé certaines choses?
Bah, finalement, c'est voilà, le grand enseignement des deux derniers scrutins, disait Jérôme Villal-Godefroy, c'est la sous-estimation du vote Trump. Là, vous dites qu'on est en train de rectifier le tir au niveau des sondages. Est-ce que les résultats valideront cette évolution?
Peut-être, peut-être pas.
Ouais.
Et d'un autre côté, on a l'incertitude de Donald Trump, on a l'incertitude de Kamala Harris. Il y a une vraie question sur le vote pour une femme. C'est pris en compte par les sondeurs. Est-ce prise en compte de manière correcte, c'est-à-dire des personnes pourraient dire « je vote pour Kamala Harris », n'ayant aucune intention de voter pour Kamala Harris, ouais, n'ayant pas envie de voter pour une femme, ces phénomènes-là ouais, existent. Sont-ils pris en compte correctement? On le saura dans les jours qui
est-ce
viennent.
Est-ce qu'on peut prendre un petit peu de hauteur au-delà du cas américain? Est-ce que les sondages aux États-Unis, ils sont les mêmes qu'à l'étranger? Est-ce qu'il y a des points de convergence, des points de divergence? Comment ça se passe ailleurs?
Alors, moi, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire sur les États-Unis, ouais, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution même technologique, de voir l'évolution même au niveau du coût des sondages. Parce que le gros problème qu'on a, et je pense que ça doit être la même chose en France, hein, même si je ne suis pas du tout spécialisé sur la question, c'est que les gens ont tendance à ne pas répondre parce qu'ils ont... Et ils ont l'identification d'un numéro qu'ils ne connaissent pas sur leur téléphone portable. Et donc, ils ne connaissent pas, ils ne vont pas répondre. Donc déjà, il faut passer beaucoup plus de coups ouais, de fil pour avoir des réponses. Ce qui coûte cher, ce qui prend du temps, il faut avoir des gens qui appellent. Vous avez des robocalls maintenant qui sont des appels automatiques. Vous avez aussi toutes sortes de techniques. Ça peut être des sondages en ligne, ça peut être des sondages même par courrier. Et vous avez des sondeurs qui mélangent ces techniques. Vous en avez d'autres qui utilisent uniquement, par exemple, les sondages en ligne, qui ne sont pas forcément très fiables, mais qui coûtent beaucoup moins cher. Mmh. Donc déjà, il y a un coût important pour avoir un bon sondage. Il faut beaucoup d'argent.
Et c'est cette variété de formats, je dirais, qui permettent une meilleure efficacité du sondage?
Ce qu'on voit en tout cas, c'est que d'avoir directement les personnes et d'avoir des personnes qui vous répondent et qui veulent vous répondre, c'est quand même quelque chose qui donne des résultats un peu meilleurs. Alors, tout n'est pas noir. On voit qu'aux États-Unis, par exemple, en 2022, pour les élections de mi-mandat, ouais, on a eu de bien meilleurs résultats.
Ça pourrait renforcer la thèse évoquée par Ludivine Gilles, que finalement, les sondages s'améliorent ou s'adaptent de plus en plus à la nouvelle donne politique post-Donald Trump. On va
oui,
dire,
mais
aux
alors
États-Unis.
Justement, le problème, c'est qu'en 2022, il n'y avait pas Donald Trump.
Ouais.
Et c'est là la question. C'est-à-dire que quand il n'y a pas... En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les élections en plus présidentielles, un peu comme en France, hein, sont très personnalisées. C'est vraiment ça tourne autour de la personne. Il y a un aspect émotionnel très important qui complexifie encore le rendu, en fait.
Ludivine Gilly ?
Oui, sur les méthodes de sondage, en fait, historiquement, pendant de longues années, les sondages les plus fiables étaient réalisés par du porte-à-porte, et les meilleurs échantillons étaient les échantillons aléatoires. Petit à petit, alors, ça induisait un certain nombre de biais, parce que quand une personne interrogée a quelqu'un en face d'elle, il y a certaines choses qu'elle n'osera pas dire. On a introduit ensuite, quand le téléphone est arrivé, des sondages par téléphone qui coûtaient moins cher puisqu'il n'y avait pas besoin d'envoyer des gens sur le terrain. Le téléphone permettait de corriger certains biais, mais en introduisait d'autres. Et récemment, on est passé, comme le disait Jérôme, à de plus en plus de sondages en ligne qui ont un grand avantage, c'est qu'ils coûtent beaucoup moins cher. Ils introduisent eux aussi des biais. Et notamment, alors en termes de réponse, parce ouais, qu'on ne va pas répondre de la même manière à quelqu'un qui est en face de soi ou à un écran d'ordinateur. Et ça induit également des biais dans les échantillons. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'a pas Internet et donc on ne va pas toucher les mêmes personnes.
D'où la nécessité de multiplier ce que j'ai les formats.
C'est alors, en principe, les sondages aujourd'hui font principalement recours, pour les sondages qui sont extrêmement récurrents, soit à des panels préconstitués en ligne, ouais, soit à des mélanges de téléphones et de sondages en ligne. La difficulté que mentionnait Jérôme avec les appels téléphoniques, c'est que beaucoup de gens ne répondent pas. Et ça pose un problème en particulier au niveau des sondages, c'est comment touche-t-on les jeunes qui ne répondent pas aux mails quand ils ne connaissent pas, qui ne répondent pas au téléphone d'un numéro qu'ils ne connaissent pas. Et en termes de sondage au porte-à-porte, on a un autre problème, c'est que les gens n'ouvrent pas leur porte à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas.
Et parce que je sais que vous pouvez parler aussi d'autres situations, je renvoie à ce qui se passe ailleurs. Est-ce que ces problèmes-là sont vécus de la même manière à l'étranger?
Alors, ce que je viens de décrire là,
ça vaut pour tous les pays.
C'est exactement la même chose en France.
En France, notamment.
On repère les mêmes biais. Ensuite, en termes de réponse aux questions et de biais selon le mode de passation du sondage, on ne va pas avoir exactement les mêmes selon les cultures. En revanche, les problèmes technologiques sont les mêmes. Et le fait que les biais dans les réponses changent selon qu'on a quelqu'un en face de soi, quelqu'un au téléphone ou qu'on réponde en ligne... Ça c'est vrai partout. Et on le voit par exemple, quand on a des sondages sur le degré de connaissance de quelque chose. Il y a une université de Pennsylvanie qui mesurait le degré de culture institutionnelle de la population aux États-Unis en posant des questions de connaissance. Ces questions-là, quand on les pose à quelqu'un qui est en face de soi, la personne ne va pas pouvoir aller vérifier la réponse. Au téléphone, difficile. Quand on est sur Internet et qu'on vous demande « Pouvez-vous me citer le nom de 3 juges à la Cour suprême ?» Je vais sur Google, je cherche les réponses et donc ça biaise les résultats.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà.
Bien
et sûr. Ça, c'est vrai partout.
Peut-on se fier au sondage? La question qu'on pose ce soir, évidemment, le jour des élections aux États-Unis, de l'élection américaine en tête, l'élection présidentielle, et le duel entre Kamala Harris et Donald Trump, annoncé au coude à coude, justement, dans les sondages. Qu'est-ce que les résultats diront? Ce sera évidemment, possiblement, une autre affaire. Mes deux invités, Ludivine Gilly, que l'on entendait, est docteur en histoire et directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès. Jérôme Viala-Godefroy est docteur en civilisation américaine, spécialiste des présidents américains. Justement, vous qui connaissez bien les présidents américains, Jérôme Viala-Godefroy, que l'histoire des États-Unis nous a appris? Qu'est-ce que l'histoire des États-Unis nous a appris justement concernant les sondages? Est-ce qu'on peut peigner les précédentes éditions? Alors, on a parlé de 2020, on a parlé de 2016, mais avant, est-ce qu'il y a eu énormément d'écart entre ce que les sondages prédisaient et le résultat final?
Alors, si on regarde dans les 40 dernières années, disons que la référence d'un problème de sondage, c'est 1980. Jimmy Carter contre Reagan, et les démocrates sont vraiment surévalués dans les sondages. Et en fait, c'est vraiment l'effondrement et Reagan gagne haut la main, et ce qui n'était pas prévu à ce point, en tout cas. Ouais. Et là, ça a été vraiment la référence. Et d'ailleurs, donc 2020 est souvent comparé, même si c'est quand même moins fort, mais comparé à 1980, souvent, dans l'erreur des sondages. Mais ce qui est aussi
intéressant... Il y a pourtant 40 ans d'évolution technologique entre les deux.
Mais oui, ouais. mais parce que c'est d'autres problèmes et d'autres biais, en fait. Et puis, ce qui est intéressant quand même aussi à dire, c'est que les sondages, en fait, les sondages ont un effet aussi sur le vote. C'est-à-dire que ça mesure, mais ça a aussi un effet. Par exemple, beaucoup de personnes, enfin, beaucoup d'études ont montré que il y avait... dans les sondages de 2016, où Hillary Clinton était quand même donnée bien à l'avance, il y a eu une démotivation d'une partie des électeurs démocrates qui, pour certains, ont voté pour un candidat tiers, Jill Stein, par exemple, notamment dans les États-clés. Et donc, il peut y avoir un effet sur le vote quand il y a comme ça quelque chose qui est erroné, mais qui est aussi... avec des titres dans la presse, par exemple, qui simplifient un petit peu les résultats. Et là, on le voit encore cette année, c'est-à-dire qu'il suffit que Donald Trump soit en tête juste d'un point, et le titre, ça va être Donald Trump est en tête, point. Et les gens se disent...
Et dans les têtes, ça change tout.
Et bien voilà, ça change tout, et les gens se disent, c'est terrible. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, d'un côté, là, du côté de Donald Trump, évidemment, on aime mettre en avant cet aspect. Après, ça n'est pas forcément toujours mauvais pour les démocrates qui ont encore peur de 2016 et qui se disent, justement, si il y a un danger, ça va motiver aussi nos troupes à aller voter. Ouais. Parce qu'il y a aussi le taux de participation. Et le taux de participation, c'est vraiment très important. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup d'erreurs sur cet aspect dans les sondages précédents.
Ludivine Gilly, est-ce qu'il y a trop de sondages? Est-ce que les sondages influencent finalement d'abord négativement le vote, la vie politique ?
Alors, c'est une question qui est un peu difficile parce que alors, nous sommes les premiers à avoir énormément recours à ces sondages. Les sondages que j'aime regarder personnellement, ce ne sont pas tant les sondages qui nous disent qui est en avance dans le vote, ce ouais. sont plus des sondages...
Est-ce que vous êtes représentatif de la population américaine ?
Alors, probablement pas. Ouais. Probablement pas. C'est vrai que les médias aux États-Unis usent et probablement abusent des sondages, ouais. et pas seulement de sondages de bonne qualité. Ouais. Même s'il existe des sondages de qualité, alors il y a des critères, et ce dont on se sert, nous, ce sont des agrégateurs de sondages. Il y a plusieurs sites qui proposent cela. Il y a notamment le New York Times et le Washington Post qui en proposent. On a dans ces agrégateurs des sondages qui respectent certains critères. Le problème du recours abusif aux sondages, c'est que dans tous les sondages qui sortent, il y a de nombreux sondages qui sont, Jérôme parlait tout à l'heure de la taille des échantillons, en dessous d'échantillons de 1000 personnes, on peut avoir des sondages qui signifient quelque chose. Mais plus on descend dans la taille de l'échantillon, plus la marge d'erreur augmente.
Mais est-ce qu'il y a plus de sondages aux États-Unis qu'ailleurs ?
Alors ça, je ne saurais pas vous le dire.
Bah, déjà, il y a le fait que les sondages ne s'arrêtent pas comme chez nous. Je ne sais plus combien de temps avant. On a une semaine, non ? C'est ça ? Ou que, je ne sais plus combien de temps. Donc voilà, les sondages peuvent aller le jour de l'élection. Vous avez tout à fait la possibilité, pendant que vous votez, de regarder les derniers sondages du jour.
Donc il y a déjà ça montre qu'il y a une culture du sondage différente.
Oui. Il y a toujours. Les Américains aiment bien mesurer tout en fait. Hein, c'est une obsession de. On mesure beaucoup les choses.
Et on n'a pas parlé des paris politiques en ligne aussi.
Alors voilà,
qui est un phénomène aussi important oui. que Elon Musk, quand même grand soutien de Donald Trump et personnalité très importante, dit que finalement c'est un meilleur indicateur que les sondages. Ce sont
bien
des paris.
Bien sûr, il va dire ça. Bien oui, bien évidemment. Ouais. Alors, ce que je pense moi, c'est que ça reflète justement le problème de sondages qui sont très serrés, qui ne disent pas assez de choses, et la nature ayant horreur du vide, on essaie de trouver autre chose pour donner un récit. Et là, effectivement, il y a une légalisation aux États-Unis là avec une décision. Juridique qui est remise en cause, mais voilà, des paris en ligne qui existaient déjà, mais qui là sont devenus légaux. Et alors là, ça apporte toute manipulation. Imaginez-vous que Elon Musk dit que Donald Trump serait élu à 69%. Ouais. Enfin, c'est totalement délirant. Donc là, on est dans la manipulation. Ouais. Manipulation aussi par des sommes d'argent qui peuvent être misées sur un candidat ou un autre, par n'importe quelle personne très un peu riche et qui a juste envie de raconter un récit.
Mais il y a un cadre obligatoire au sondage. Je reviens au sondage. Évidemment, les paris en ligne, c'est encore différent, mais ça veut dire quelque chose, que ça se développe aux États-Unis. Il y a un cadre, vous parliez, Ludy Vingili, évidemment, moins il y a de populations sondées, moins ils sont représentatifs. Mais à partir de quand un sondage peut être publié ?
N'importe qui peut. Je peux décider de sonder la pièce et de publier le sondage.
Et ça peut être repris par les médias ?
Alors, bien sûr.
Ça peut être repris par des médias. Après, ça ne sera pas repris par des médias sérieux qui font appel à des sondages justement qui respectent un certain nombre de critères en termes de représentativité, en termes... Ils ont une grille d'analyse. L'échantillon, la fiabilité de l'échantillon. Et puis ensuite, les sondages réputés sérieux sont aussi des sondages qui ont de l'antériorité et qui ont pu montrer qu'ils étaient fiables dans la durée. Y a un point qui me paraît intéressant. C'est un point dont on n'a pas encore parlé, ce sont les sondages sortis des urnes, dont on parlera très bientôt.
Ah oui.
Et qui sont intéressants parce qu'en fait, en 2020, eux aussi ont tapé à côté. Pour une très bonne raison, c'est que les sondages sortis des urnes sondent les personnes qui sortent des urnes.
Et qui peuvent dire ce qu'ils veulent.
Non, c'est qu'en fait, aujourd'hui, jour de l'élection, vous avez potentiellement aux États-Unis 245 millions d'électeurs. Vous n'avez pas autant d'électeurs inscrits. Vous avez à peu près 186 millions d'électeurs inscrits. Sur ces électeurs inscrits, vous en avez 82 millions qui ont déjà voté.
Bien sûr.
Par définition, ceux-là ne sortiront pas des urnes aujourd'hui. Ouais. Et la structure de la population qui a déjà voté par rapport à la structure de la population qui vote le jour de l'élection n'est pas la même. Donc, si vous sondez seulement les personnes qui votent le jour J, vous n'avez pas un échantillon fiable. Oui. Alors, les sondeurs en sont parfaitement conscients et depuis les déconvenues des dernières années, introduisent dans leur sondage des personnes interrogées auparavant et des personnes interrogées le jour de l'élection. Mais là encore, c'est une illustration qui est réelle en France aussi, alors pas pour les mêmes raisons, mais des difficultés que les sondeurs rencontrent, quel que soit le contexte, il y a toujours un contexte à prendre en compte. Dans ce cas-là, c'est tout le monde ne vote pas le même jour. Quand on a le contexte sortie des urnes en France, par exemple, ça va être certaines personnes ne vont pas vouloir nous dire pour qui elles ont voté, etc. Tout ça, c'est pris en compte, c'est pondéré par les sondeurs, mais parfois avec une erreur dans la recette de pondération.
Un autre élément qui est vraiment important aussi, c'est les sous-catégories. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de... On va vous dire, par exemple, les hommes noirs, les hispaniques, en fait, voilà. Donc, plus vous réduisez... En fait, quand vous avez un sondage sur 1000 personnes et qu'il y a, 120 noirs, par exemple, voilà, vous allez réduire forcément votre fourchette. Et là, c'est encore plus... il y a encore plus d'erreurs. Donc, il faut vraiment se méfier des sondages qui sont des sondages sur un ensemble de populations et qui vont vous parler des sous-catégories, les femmes, les hommes, les noirs, les blancs, etc. Parce que vous réduisez encore la fourchette et du coup, vous avez plus d'erreurs. Donc ça aussi, il faut faire très attention. Mais
on arrive lentement vers la conclusion de notre débat, parce que la question, c'est est-ce qu'on peut se fier au sondage ? Est-ce que pour y répondre, on peut dire que finalement, il y a trop de critères aujourd'hui à prendre en compte entre les... Si je dois revenir sur un peu ce qu'on s'est dit dans ce débat, les types de populations, vous évoquiez Ludy Vingili, évidemment les différentes modalités de vote, et aux États-Unis elles sont importantes avec le vote anticipé, pour que les sondages aujourd'hui soient fiables. Ça prédit quoi de demain ?
Ça dépend ce qu'on appelle fiabilité. En fait, un sondage ne va pas nous dire qui va gagner. Le sondage doit être pris en termes de tendance. Et on peut voir, par exemple, quand Joe Biden...
Est-ce qu'il est pris comme ça ?
Il n'est pas pris comme ça par tout le monde. Il est pris comme ça et mis en contexte. C'est là l'intérêt de bons médias, d'une bonne presse, d'une bonne radio. C'est de mettre les éléments en contexte. Quand Joe Biden a quitté la course à la présidentielle, les sondages étaient loin d'être aussi serrés qu'ils le sont maintenant entre Kamala Harris et Donald Trump.
Et l'élément aussi important pour les sondages, c'est pas forcément dans les intentions de vote, mais sur, par exemple, pour parler de certains sujets, quand on demande leur avis aux gens sur certains sujets, que ça peut être l'économie, ça peut être... Alors, il faut aussi regarder comment la question est posée dans ces cas-là, parce que ça, c'est très important. Mais enfin, ça nous donne quand même des éléments d'information sur ce que pensent les gens. Et là, on n'est pas dans la prédiction, on est vraiment dans la photo à un moment donné, à un moment X, et c'est comme ça qu'il faut voir les sondages, en fait. C'est instantané, à un moment donné. Et vraiment, se méfier des titres un peu accrocheurs, parfois, par rapport aux sondages.
Est-ce que l'évolution technologique, je pense au développement de l'intelligence artificielle, peut prendre en compte beaucoup plus de critères et permettre une plus grande fiabilité à l'avenir des sondages ?
C'est une bonne question. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire sur ce sujet-là.
Parce qu'on n'a pas tant parlé évolution technologique que ça, mais c'est quand même un point important. Vous parliez finalement, vous faites un parallèle entre l'élection de 80 et celle de 2020, 40 ans d'évolution technologique entre les deux.
Parce qu'on a toujours de toute façon des biais. Moi, je pense que tant qu'on reste dans l'humain, de toute façon, on aura soit des tentatives de manipulation, soit des erreurs. Je pense que c'est absolument impossible d'avoir quelque chose qui nous... Surtout aux États-Unis, en l'occurrence là, sur des marges si faibles. Ouais. C'est impossible. Enfin, même s'il y a une intelligence artificielle, ou alors il faudrait qu'il y ait énormément de critères des gens, qu'on sache beaucoup de choses sur leur vie personnelle. Et là, on est quand même à un autre niveau, quoi. Ouais. Donc, je pense que peut-être en Corée du Nord, ils ont plus d'informations, ils savent le faire, mais voilà, c'est pas à souhaiter, je pense.
Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Viala-Godefroy. On terminera avec ces mots, docteur en civilisation américaine, spécialiste des présidents américains. Merci, Ludy Vingili, docteur en histoire, directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès. Merci à Florence Ponce et Arnold Assewa à la préparation de ce débat. Hélène Avril à sa réalisation. Et restez à l'écoute de RFI, car dans 30 secondes, eh bien, ce sera l'heure de notre édition spéciale pendant 55 minutes avec nos collègues de France 24. Restez à l'écoute de la